France Inter. .fr.
Bonjour. Une éditrice discrète, mais dont on connaît partout le nom et le style, arlésienne d'adoption et l'invitée de Vous avez dit classique aujourd'hui. Françoise Nyssen, directrice de la merveilleuse maison d'édition Actes Sud, chef d'orchestre, on pourrait dire, de ce laboratoire d'idées et de littérature largement remarqué à l'automne dernier, puisqu'en quelques semaines d'écart, deux de ses auteurs ont été primés. L'un, Mathias Sénard, pour son roman Boussole, pour lequel il a reçu le prix Goncourt, et l'autre, Svetlana Alexeyevitch, c'était un prix Nobel de littérature. Chef d'orchestre, oui, parce qu'en plus de publier et d'accompagner des auteurs, Françoise Nyssen organise des concerts dans la salle La Chapelle Méjean, des projections de films, édite des disques, organise des conférences. Avide, passionnée, tout ce qui intéresse cette éditrice, et même au-delà, à sa place dans ce merveilleux bouillon de culture qu'est Actes Sud, du moment que cela fait sens. Une très belle invitée donc pendant une heure pour nous parler d'elle à travers ses goûts musicaux, ses rencontres avec des compositeurs et ou des musiciens. Bonjour Françoise Nyssen.
Bonjour.
C'est vrai qu'on peut dire que c'est une vie dans les livres et avec tout ce que la littérature apporte. Et du coup, les sens sont en éveil par les mots, puisque parmi vos collections, vous parlez aussi de musique. C'est comme si finalement le mot était à l'origine de tout ce que vous avez développé.
Ah, certainement, et c'est à l'origine de tout ce qui m'a nourrie. Je suis nourrie de mots et je suis nourrie de mots et de musique. Et j'ai jamais pu imaginer l'un sans l'autre.
Oui, on le sent, on va pouvoir en parler pendant cette heure, parce que on sent que la musique serait presque votre colonne vertébrale, comme si sans cette colonne vertébrale, le reste ne pouvait pas se développer, et réciproquement.
C'est vrai, et je dis souvent que les musiciens sont ma famille, en fait. C'est vrai qu'on organise des concerts depuis 33 ans, et c'est devenu une véritable famille auquel je suis profondément attachée.
Alors, en préparant cette émission, vous avez fait des propositions comme chaque invité, chaque jour. Ce qui est très étonnant, c'est que vous n'avez pas mentionné Jean-Sébastien Bach dans vos premiers choix. Et pourtant, à chaque fois qu'on va entendre des morceaux que vous avez choisis, Bach n'est jamais vraiment très loin. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, Françoise Nyssen?
Oui, pour moi, c'est le premier, avant tout. Je me suis dit, je ne vais pas encore une fois dire l'aria des variations Goldberg. J'avais mis dans mes choix un disque merveilleux, très récent, de jeunes pianistes qui ont fait des transcriptions de Bach très étonnantes et originales. Et donc, c'est là, j'avais mis aussi, alors je ne sais pas si on l'entendra, je crois que c'est le neuvième fils de Bach, avec une œuvre que j'adore. Et c'est vrai que pour moi, c'est les partitas, c'est une drogue. J'écoute ça en boucle. Les variations Goldberg, on a eu la chance de produire un disque avec Jean-Louis Steuermann, qui est un merveilleux pianiste et pianiste de Bach. Et je pense que ça a été un des moments les plus sublimes que j'ai eu à vivre.
On va vous parler des partitas. On va commencer par les partitas de Jean-Sébastien Bach, interprétées par Glenn Gould, parce que cette façon de l'interpréter qui a marqué tous nos esprits. Alors on va écouter la Sinfonia, donc qui ouvre la deuxième partita de Bach, avec cette façon imposante et légère qu'elle nous offre. Et je trouvais que c'était un peu comme avec vous, il y a le décor qui est posé, puis j'espère qu'on va s'envoler.
Thank you.
la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach en ut mineur avec cette symphonia qui l'ouvre, interprétée par Glenn Gould et qui vous a convenu, je crois,
absolument.
Françoise Nyssen, qui nous permet de remonter à l'enfance. Donc vous avez grandi à Bruxelles, vous étiez au lycée français de Bruxelles,
oui.
et vous avez, je crois, souffert pendant cette enfance au lycée à cause d'une histoire d'accent.
Oui, enfin, disons qu'en étant belge, on était regardé en tant que belge, oui. Donc un petit peu moqué. Et puis j'étais pas très très heureuse de cette organisation-là parce que le lycée français était dans le centre, nous on habitait à l'extérieur, et donc j'étais assez seule puisque j'habitais pas à côté de l'endroit où j'étudiais. Et donc c'est aussi ça qui m'a amené à la musique, c'est que quand je rentrais, j'étais souvent seule à la maison. C'était encore l'époque des 78 tours, peut-être, je sais plus très bien, enfin, en tout cas du meuble
sans
avec
doute, 78
oui, sans
tours,
doute
oui.
Et j'ai écouté, alors c'était plutôt la chanson, c'était Catherine Sauvage, c'était Yves Montand, mais ça m'a vraiment et puis c'était les Brandebourgeois de Bach, et c'était déjà quelques disques de jazz, enfin, mais vraiment je me suis fait accompagner par la musique dans les moments où j'étais seule, en fait. Donc j'étais pas seule.
La musique vous tenait compagnie, les livres aussi, je crois, oui. Mais néanmoins j'ai le sentiment que vous étiez quand même dans un cocon, à savoir que votre père a toujours été très proche, je crois que votre beau-père aussi.
Oui, alors oui, ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient la musique. Et c'est vrai que quand ma maman a rencontré mon merveilleux beau-père, je tiens à le dire parce que c'est un homme d'exception, lui-même grand mélomane, musicien, il joue du hautbois, mais il joue aussi du tuba pour rire, où il fait la fanfare avec ses joues. Il fait de l'harmonie. Et donc, à partir du moment où j'ai vécu avec lui, c'était de la musique en permanence, avec un petit côté facétieux, c'était toujours nous faire deviner. Alors, dès qu'on entendait un morceau à la radio, il disait « devinez, devinez ». Et donc, je crois que c'est lui qui a vraiment m'a aidé à avoir un peu de culture musicale.
Alors, c'est lui qui vous a fait découvrir le trio en mi majeur numéro 28 de Haydn ?
Oui.
Alors, c'est un trio d'abord assez peu connu.
Alors, c'est un trio très peu connu. Et alors, bon, vous avez dit que c'était Haydn. Ça aurait été presque amusant de faire
écouter la devinette
en aveugle. Parce que si vous le passez, les auditeurs pourront constater qu'on a peut-être un peu de mal à dire que c'est Haydn d'entrée de jeu. Et puis même à la fin, on peut plus le dire du tout. Et c'est vrai que ça, c'est devenu un jeu entre nous et c'était vraiment le morceau code, je dirais. Et je l'ai fait écouter à mon père et qui a été totalement pris aussi par ce morceau-là. Et un de ses romans, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'un de ses romans, il l'a écrit en l'écoutant en boucle.
Alors on va, c'est un hommage au père avec un S, avec sur cette pièce construite sur le modèle baroque de la Passacaille. On dirait effectivement qu'on écoute un peu de Bach, surtout au début. La main gauche du piano soutient la structure à la main droite, c'est sous forme de basse continue. Et le solo de piano est long avant que les cordes n'arrivent. Et là, ça va se rejoindre toujours en tenant ce modèle de la basse continue sur la main gauche du piano. L'Allegretto du trio en mi bémol majeur de Haydn, interprété par le Beaux-Arts Trio avec Menahem Pressler au piano, Isidore Cohen au violon et Bernard Greenhouse au violoncelle. Françoise Nissen, c'est vrai que ce morceau est étonnant puisqu'on commence, on a l'impression d'être avec Bach et à la fin, on serait presque avec Brahms.
Bien sûr, c'est incroyable.
Donc votre beau-père vous faisait des sacrées farces pour trouver le nom des compositeurs.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Françoise Nissen, vous avez fait des choix très spécifiques, beaucoup de musique de chambre, et je me disais que peut-être c'était ces dialogues intimes qui vous plaisaient. D'ailleurs, dans la salle Méjean, c'est ce qu'on peut aller voir lorsque vous organisez des concerts.
Oui, l'acoustique est vraiment exceptionnelle, et c'est vrai que les dialogues violoncelle, piano, violon, alto sont absolument magnifiques, et on a des moments d'une émotion intense. L'acoustique est vraiment importante là-dedans.
Et puis, dans la musique de chambre, finalement, c'est tout petit, mais ça peut donner l'impression d'être très grand. Je me disais, comme votre maison d'édition, où il y a cette dimension à taille humaine que vous avez su conserver depuis le départ. En 1978, votre père fonde les éditions Actes Sud. Et aujourd'hui encore, vous allez dans tous les domaines, tous les registres. Et pourtant, ça reste, on pourrait dire, une petite maison d'édition. Vous vivez comme ça ?
C'est surtout, on s'est attaché vraiment farouchement à être dans une forme d'exigence, après, au lecteur de dire si ils sont d'accord avec ça. Et ça, c'est une exigence presque artisanale, je dirais, et une indépendance. Et je crois que ces deux facteurs-là sont essentiels pour ce ressenti. Et c'est vrai que Hubert disait toujours plaisir et nécessité, comme espèce de maxime. Et c'est un petit peu ce qu'on, j'ai l'impression qu'on vit toujours et auquel on est attaché.
Du coup, c'est peu d'instruments, pour reprendre cette image, parce qu'on va écouter Schumann dans quelques instants, un quatuor. En plus, un quatuor intéressant, puisque Schumann, au moment où il a composé ce quatuor en 42, Clara, sa femme, lui disait « Bon, il faudrait arrêter de composer que pour le piano, il faudrait un petit peu essayer de voir ailleurs, Liszt aussi. » Donc, il ouvre à la musique de chambre, et néanmoins, il n'arrive pas à se séparer du piano. Et cette discussion qui paraît très large est en fait très intime. Ça résonne chez vous, cette intimité en termes de rencontre à la fois entre vous et les auteurs ?
Oui, certainement. Et c'est vrai que je suis soucieuse des relations que je peux établir avec les auteurs. C'est quelque chose qui me paraît important et qui m'importe. Et j'essaye de les accompagner dans ce travail que je définis comme celui d'ourleuse, mais un petit peu de chef d'orchestre. Mais c'est vraiment important. Mais ce dialogue des instruments aussi est fondamental. Et si on a le temps de parler un petit peu de l'école, on pourra parler de la musique à l'école. Et ce dialogue est absolument extraordinaire et nourrissant.
Alors, ce quatuor de Schumann, c'est vous qui l'avez choisi, Françoise Nissen. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce quatuor en particulier ?
Alors, c'est aussi une histoire. Beaucoup de ces morceaux se rattachent. En fait, moi, j'ai la chance, avec Jean-Paul Capitani, mon mari, on organise des concerts depuis maintenant 33 ans. C'est une leçon de musique merveilleuse. Et un des concerts qu'on a eu, avec d'ailleurs l'extraordinaire pianiste qu'on adore, Jean-Louis Steuermann, mais aussi Miguel da Silva, Régis Pasquier et Roland Pidoux, nous ont donné ce morceau-là. Et ça a été, j'étais au tapis quand je l'ai entendu, ça a été une émotion. Et c'est, voilà, ça me rappelle ça. Et cette musique est presque inaudible tellement elle est, enfin, elle est presque douloureuse plutôt, pas inaudible, elle est presque douloureuse de beauté.
Avec un début qui ressemble à un emportement, comme si on avait pris Schumann sur le vif.
Thank you.
Le troisième mouvement du Quatuor en mi bémol majeur de Robert Schumann, avec Martha Argerich au piano, Renaud Capuçon au violon, Linda Chen à l'alto et Gauthier Capuçon au violoncelle. Un enregistrement live au Festival de Lugano. Pour poursuivre avec vous, Françoise Nyssen, et peut-être revenir au moment où vous êtes devenue éditrice. Actes Sud donc été fondée en 78. Vous, à ce moment-là, vous étiez, je crois, fonctionnaire.
J'étais urbaniste à l'époque, mais je travaillais effectivement à la direction de l'architecture à Paris.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint cette aventure d'Actes
Alors,
Sud ?
Cet épisode direction de l'architecture était un petit épisode, parce qu'avant j'habitais à Bruxelles, et après avoir fait de la recherche en biologie moléculaire, parce que je militais dans les comités de quartier, je m'étais mise à l'urbanisme avec passion. Et puis je me suis retrouvée en allant en France, dans cette direction-là. Et voilà, je ne m'y plaisais pas trop. Et Hubert et Christine venaient de créer la maison d'édition. Et ils cherchaient quelqu'un pour les aider. Et je me suis proposée. Et donc je suis arrivée en février 79. Et depuis, je ne suis plus repartie.
Alors, vous dites aussi que vous auriez pu devenir violoncelliste.
Non, en tout cas, j'aurais voulu. J'ai essayé de commencer à apprendre, mais j'ai pas pris assez de temps et peut-être.
Et qu'est-ce qui vous plaisait dans le violoncelle, Françoise Nyssen ?
Ben, la respiration, c'est d'avoir cet instrument et de le son. Moi, j'aime. Et ce qui m'intéresse dans la musique, c'est vraiment la respiration. Les silences aussi.
Les silences et ce son quand même du violoncelle proche du timbre de la voix qui sonde peut-être aussi très bien l'âme humaine. Est-ce qu'il y a quelque chose?
Il y a quelque chose là. Et puis il y a aussi une petite histoire, une anecdote. En fait, j'étais tombée en amour avec, je ne sais plus, c'est Imai, qui est une altiste qui était venue au Méjean. Et je m'étais dit, je voudrais faire de l'alto. Et Georges Claude Demacher m'avait dit, mais Françoise, j'avais 50 ans, mais tu n'y penses pas, c'est un mouvement contraire. Fais plutôt le violoncelle en montrant donc la position de la main
sur l'archet, en avant.
Qui est contraire pour le violon et qui n'est pas contraire pour le violoncelle. Et j'avais jamais pensé à ça.
Et c'est quand même
pas mal à 50 ans plutôt de commencer à l'endroit plutôt qu'à l'envers.
Alors on va écouter un morceau de Forêt transcrit par Pablo Casals, qui est un grand violoncelliste que vous devez, je pense, aimer. Et il a retranscrit cette mélodie de Forêt pour le violoncelle. Alors Rousseau disait au sujet des mélodies, point d'ornement, rien de maniéré, une mélodie douce, naturelle, champêtre, et qui produise son effet par elle-même, indépendant de la manière de la chanter. Est-ce que ça vous parle par rapport à cette mélodie de Forêt ?
Oui, et c'était, Casals, pour moi, est un immense monsieur à tous les points de vue, en tant qu'homme politique, en tant que musicien, qui a eu le courage aussi de ses opinions. Et bon, tous ses disques sont. Moi, j'ai entendu que des enregistrements, et c'est chaque fois un émerveillement.
Alors, on va écouter ce Après un rêve de Gabriel Fauré, interprété par Louis Claret.
Thank you.
Après un rêve de Gabriel Fauré, transcrit par Pablo Casals pour le violoncelle et le piano, c'était donc interprété par Louis Claret au violoncelle et Myung Seon-hae au piano. C'est un disque bon, difficilement trouvable, mais on peut toujours essayer de le chercher.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Françoise Nissen, je le disais tout à l'heure, Actes Sud, c'est beaucoup plus qu'une maison d'édition. C'est un endroit où la culture a sa place. Et vos envies, beaucoup, je présumais cela, mais parce que quand on y va, quand on va chez Actes Sud, à Arles, on se dit, mais il se passe quelque chose de l'ordre du désir. Et donc, la salle Méjean, par exemple, on sent bien qu'elle existe parce que quelqu'un a eu envie, à un moment, de faire entendre de la musique dans une salle magnifique.
Je suis tellement contente que vous utilisiez le terme désir, parce que c'est la chose la plus importante. J'ai assisté à un séminaire à l'Institut Pasteur, où le patron de la neurobiologie expliquait que la chose la plus importante pour activer le cerveau et le maintenir en bonne élasticité, en bonne vie, c'était d'être dans le désir, et non pas la satisfaction. Et que c'est la chose qui permet au cerveau au mieux de rester jeune et actif.
Mais
et
oui, vous, c'est ce qui vous anime.
Voilà, le désir et la curiosité, ça c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un lieu où se passent beaucoup de choses. Et ça fait maintenant 33 ans qu'on organise, grâce aussi à la complicité du merveilleux Jean-François Esser, grand pianiste au demeurant et ami proche et qui nous accompagne depuis le début pour faire la programmation de ses concerts. Et voilà, c'est comme une leçon de musique, une leçon de vie, un partage familial que depuis toutes ces années-là.
Alors, il y a 33 ans aussi, vous avez programmé un très beau lead de Buxtehude, interprété, je crois, par René Jacobs, lui-même. Il n'était pas encore très connu à ce moment-là. Un lead composé en 1671, expression des sentiments et de la déploration personnelle sont au premier plan, puisque ça s'appelle « Mus der Toden nun trennen ». Donc, c'est un lead qui raconte la douleur de la mort.
De son père.
Et parce que effectivement. Buxtehude venait de perdre son père, il avait besoin de l'exprimer. Je propose qu'on l'écoute tout simplement, peut-être pour se remémorer ce moment il y a 33 ans dans la salle Méjean à Arles.
Oh.
Muss der Tod denn nun trennen de Dietrich Buxtehude, interprété par René Jacobs et l'ensemble Keuken. Pour continuer avec vous, Françoise Nissen, vous avez ce lead fait penser aussi au fait que vous avez perdu votre fils, vous Antoine, en 2012, qui s'est donné la mort à l'âge de 18 ans. Je crois qu'il souffrait beaucoup d'une marginalité due en partie, je crois, à sa dyslexie et sa dyspraxie. Et c'est sa disparition qui vous a poussé, incité à créer une école différente pour accueillir les enfants qui souffrent de...
Alors, non, je vous vois tiquer. Voilà. Oui, cette école, on l'avait déjà évoquée avec lui, Jean-Paul et moi. Et c'est vrai qu'on s'est dit que... puisqu'il n'était plus là, il fallait continuer avec ce projet-là. Et nous sommes attachés, c'est une école qui accueille, mais pas une école différente, c'est une école comme...
Vous l'appelez l'école de la réalité d'ailleurs.
Voilà, c'est donc comme c'est l'idée, c'est d'accueillir les enfants en ce qu'ils sont et leur apprendre à s'incarner eux-mêmes, à s'habiter eux-mêmes. Et puis, évidemment... vu comment les choses se passent en France de manière assez classique, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants assez extraordinaires qui viennent. Et maintenant, on est, d'une manière générale, plus attentif à ces enfants au parcours qui n'est pas complètement normé et qui ont cette précocité, cette sensibilité extrême, et qui s'accompagne effectivement parfois de cette dyslexie, dyspraxie, mais c'est rien. En général, c'est plutôt des enfants qui sont très intéressants. Mais je dirais qu'à l'époque d'Antoine, à l'école, c'était difficile pour ces enfants-là.
Maintenant, on leur demandait de s'encadrer plus.
De se cantonner à une espèce de normalité qui vient de je ne sais où et qui est très réductrice. Et surtout, on avait l'impression qu'on n'essayait pas de s'attacher à essayer de donner confiance à un être aussi sensible et aussi merveilleux que lui. Il était plutôt confronté à l'évaluation omniprésente dans notre système, plutôt que d'essayer d'accompagner sa spécificité et son côté assez merveilleux.
Et du coup, ça nous emmène aussi sur cet autre terrain qui est celui de votre engagement permanent aussi. Vous êtes très à l'écoute du monde, vous cherchez tout le temps à le traduire, à non seulement le traduire, mais à le restituer dans certaines de vos publications. Depuis des années, vous êtes aussi dans des initiatives et propositions innovantes par rapport aux questions écologiques. C'est aussi un de vos maîtres mots de...
Oui, et c'est quelque chose que je partage et que Jean-Paul Capitani, donc mon cher et tendre compagnon de tout, a initié, c'est cette collection du domaine du possible pour essayer de montrer dans tous les domaines les choses, les perspectives possibles. Et si vous avez eu l'occasion de voir ce documentaire vraiment merveilleux, qui vient d'être primé au César, demain, que Cyril Dion a réalisé avec Mélanie Laurent, c'est au départ de ces livres-là, et c'est vraiment important, on ne peut pas ne pas regarder le monde et essayer d'être citoyen d'un changement. C'est Gandhi qui dit il faut qu'on soit le changement qu'on souhaite, donc engageons-nous, soyons cohérents avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on publie, et cela nous importe beaucoup.
On va poursuivre avec ce compositeur contemporain, star secrète. C'est étonnant d'être une star secrète, mais c'est Ludovico Einaudi qui a notamment composé la bande originale du film Intouchable. Et lui aussi est très proche de la nature, des éléments. Il a été très influencé par son maître Luciano Berio, compositeur italien. Il essaie de nous faire entendre dans son dernier disque, Elements, tout ce qu'il entend dans son vignoble italien, le vent, l'eau, et l'espace, et donc le silence. Ça ne m'étonne pas que ça vous plaise en particulier ce morceau, Petrichor, Françoise Nissen.
Thank you.
Petrichor, extrait de l'album Elements de Ludovico Einaudi, avec Daniel Hope au violon, Federico Mecozzi à l'alto, Reddy Assa au violoncelle, Fabrice Alberto à la basse électrique et Ludovico Einaudi au piano. Françoise Nyssen, on l'entendait au début de ce morceau, le silence, vous l'évoquiez au début, le silence dans la musique, le silence en général d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut apporter ?
Mais maintenant, ça fait partie intégrante de ma vie. Je dirais que je voudrais rendre hommage à ma chère Nancy Houston qui, lors d'une rencontre en librairie, a démarré la rencontre en proposant du silence. Et à l'époque, je n'étais pas capable d'être dans le silence. Et ça m'a profondément interrogée. Et depuis, notamment grâce à ma chère cousine qui est maître Shiatsu, je me suis mise à la méditation et je ne peux plus m'en passer. Ce moment de verticalité, de silence, le matin, pour se recentrer et ensuite démarrer, parce que je crois que je suis assez énergique, mais je pense que je le suis d'autant plus que je prends ce temps de silence avec moi-même, et je trouve que c'est vraiment important.
Mais ça devait être inscrit en vous, parce que parmi vos drogues musicales que vous évoquiez dans le mail que vous avez envoyé, il y avait le Stabat Mater de Vivaldi. Et dans le Stabat Mater de Vivaldi, le silence est omniprésent.
Oui.
Pourquoi c'est une drogue, ce Stabat Mater ?
Parce que c'est une musique qui m'emmène. Je m'élève. Enfin, je m'élève. Voilà. Je pars. Le propre d'une drogue, c'est d'une certaine façon, on décolle d'une réalité. Et je décolle avec moi-même et avec la musique. Et ça me permet aussi de vivre. Très, très, très sincèrement, ça me permet de vivre.
On va écouter Philippe Jarouski dans ce Stabat Mater de Vivaldi. Totalement épuré, dialogue entre les cordes et la voix, et ce Eia Mater qui veut dire « Ô mère source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi ». Pour clôturer cette émission, Françoise Nyssen, merci d'être avec nous.
Merci. Thank you.
et Yamater du Stabat Mater d'Antonio Vivaldi avec Philippe Jaroussky qui l'interprétait et qui est venu aussi à la salle
oui. Méchant. C'est un des plus grands souvenirs qu'on puisse avoir parce qu'il est d'une générosité. Il devait chanter avec quelqu'un ce soir-là qui n'était pas bien, qui n'a pas pu chanter et il a fait toute sa partie. Il a donné des bis à n'en plus finir.
Donc il faisait deux rôles à la fois.
Oui, enfin c'était un récital, donc il enchaînait les morceaux. Et après, la soirée s'est terminée à des pas d'heure, tellement c'était magique.
Mais c'est à chaque fois comme ça quand même. Salle Méjean, ça finit toujours tard derrière.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Françoise Nyssen, déjà je signale aux auditeurs qu'on peut aller voir vos spectacles, donc Salle Méjean, Chapelle Méjean, toutes les dates de concert sont sur le site de franceinter.fr à la rubrique Vous avez dit classique pour voir quelle est la programmation, mais toujours très belle. Et puis moi, pour finir, je voulais vous proposer une trompettiste avec un guitariste. La trompettiste, c'est Erel Besson, accompagnée du guitariste Nelson Veras, qui, je crois, a dû passer, si ce n'est pas dans votre salle, pas très loin. En tout cas, ils sont parfaits pour ce genre d'acoustique, puisqu'ils jouent acoustique, à la trompette et à la guitare. Un duo tout simple, épuré, encore une fois, pour vous, pour terminer. Ça s'appelle Lully's Sunset. Et vous allez entendre la rencontre de ce son fragile de la trompette avec la guitare qui soutient cet air fragile et douloureux. Thank you. c'était un extrait de Lulu Sunset avec Erel Besson et Nelson Veras, qui était donc Salmé Jean le 13 février dernier.
Dans le cadre des Sud.
Et évidemment, je crois qu'ils ont adoré le lieu, puisque c'est un lieu assez magique. Ils seront ensemble le 3 mai prochain à Quimper, prenez date, parce que Erel Besson, c'est toujours magique quand on est en duo avec Nelson Veras. Merci. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Françoise Nyssen, d'être venue partager cette heure avec nous.
Merci. Et C'était un grand plaisir.
Oui, et puis on souhaite continuer de lire plein de livres que vous avez édités, publiés. Puis revenez quand vous voulez, en fait.
Ah, ben avec plaisir.
D'accord, on recommencera alors. À bientôt. Et puis merci à Anne-Sophie Ladonne, Claire Destacan, Elisa Mar, Elsa Rampazzo, Philippe Duclos.